une culture de la violence à l'arme blanche qui désigne toujours les mêmes individus. Et de toute façon, là, je pense qu'il faut aller à l'abandon de l'excuse de minorité, parce que là, ce sont les lois de la justice qui ont tué toutes les paroles justificatives qui surviennent aussitôt. Elles sont dites que pour se décharger de toute responsabilité. Hein. Gilles Lavrousse, qui est un excellent maire, hein, pour qui j'ai voté, de toute façon, hein, qui fait ce qu'il peut pour sa ville, qui assure une bonne sécurité, mais ses tout premiers mots hier que j'ai pris à minuit, c'était pas de stigmatisation. Voilà, déjà, premièrement. Aussitôt, tout est dit quand on commence à parler comme ça.
Mais je suis d'accord avec vous. Vous connaissiez les parents de Matisse ?
Oui, je les connaissais. Je connaissais, comme beaucoup de Castelroussins. Hein, ce sont des gens, ce sont des restaurateurs. Voilà, c'est. On avait discuté aussi un mois ensemble du bon vieux temps où on faisait du sport ensemble et c'est des gens très bien. Voilà, on est avec mon épouse, nous sommes littéralement écœurés parce que en plus c'est la deuxième fois que ça arrive à Châteauroux. Hein. En 2021, il y a un gars qui fait de la moto qui est dans la petite ville à côté de Châteauroux qui s'appelle Déol, qui a été poignardé sur la place de la République. À Châteauroux, après une rixe encore une rixe, soi-disant. Voilà, il est. Alors, monsieur Avrouche, que j'apprécie beaucoup, alors, elle avait déjà dit pas de stigmatisation, parce qu'il inutile de vous dire que c'était toujours les mêmes individus. Et il est passé en procès depuis. Quand il avait fait ça, il avait 17 ans, et il a été condamné à 7 ans.
On parle évidemment de Matisse, poignardé à mort à Châteauroux par un mineur afghan. On est avec Didier qui. Vous êtes né à Châteauroux, c'est bien ça, Didier ?
Oui, je suis né à Châteauroux.
Bon, et vous connaissiez les parents de Matisse qui sont restaurateurs. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont plusieurs enfants ou pas. Je ne sais pas, je connais pas cette famille. On n'a pas d'informations encore sur cette famille. Je ne sais pas si vous en avez vous-même.
Non, je n'en ai pas. C'est simplement une connaissance quand on était jeune. Mais voilà, l'émotion est palpable dans tout Châteauroux. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui sont connus. Et un effroi qui nous gagne tous, parce que moi j'ai une petite fille qui est sur Châteauroux, qui a 19 ans, qui va se promener régulièrement à Belle-Île. Belle-Île, c'est le jardin public en gros de Châteauroux, c'est l'endroit où les jeunes vont. Et quand on voit que l'assassin a commencé ses premières exactions la semaine dernière à Belle-Île, on peut qu'être effrayé, quoi. Comment laisser nos enfants partir avec des gens comme ça qui rôdent, hein. De toute façon, c'est pas la première fois. À Châteauroux, il y avait déjà eu un reportage sur Antenne 2 ou sur des gars qui s'étaient radicalisés à Châteauroux. Ils allaient dans ce parc faire leurs ablutions dans l'Indre. Non, je sais pas si vous vous rendez compte comment est devenu Châteauroux. Châteauroux, moi, c'est le Châteauroux de Depardieu, c'est le Châteauroux des Américains qui étaient dans la ville. Il y avait des bagarres, mais ça se terminait par des coups de poing au pire. Mais tout le monde ne se trimballait pas avec des couteaux dans la poche et des envies de meurtre. Des envies de meurtre, là, parce que, en fait, de ce que je lis, là, parce que les infos viennent un peu plus vite ici, il s'est fait piquer son portable par l'Afghan. Il a réussi à rattraper l'Afghan, à y arracher. L'autre, de rage, il l'a poursuivi. Il a mis 4 coups de couteau. On ne donne pas 4 coups de couteau. On a envie de tuer. Quand on donne 4 coups de couteau, ces gens-là sont des
Non mais l'information que vous nous donnez, personne ne l'a. Hein. Donc,
Moi, je viens de l'avoir sur Châteauroux Info, évidemment. Mais
donc
voilà,
ça, c'est une information. On va quand même la vérifier avant
oui, vérifier.
De, hein, parce que c'est important, effectivement, que ce jeune homme se serait fait Matisse voler son portable et qu'il aurait retrouvé poursuivi en tout cas l'Afghan et que l'Afghan lui aurait mis 4 coups de. De
couteaux dans le thorax,
mais c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on passe ? On passe notre temps à dire à nos enfants la même chose. Si t'arrive quelque chose, tu donnes tout et tu ne fais rien. On passe notre temps à dire ça. Moi, je passe mon temps à dire ça, bien sûr. Et j'ai des enfants qui ont un peu plus de 15 ans, mais qui sont effectivement dans la rue régulièrement et de ça. Donc, tu donnes tout. Tu donnes tout ce qu'il y a. Ouais. Tu donnes tout. Surtout. Et tu n'es même pas sûr aujourd'hui, même en donnant tout, parfois, de t'en sortir, parce que le crime peut être. Si j'ose dire, gratuit, sans raison, un regard,
un mot de travers, une insulte.
Je vous assure effectivement que ça, on est le mot que vous avez employé, effroi, convient tout à fait. Merci beaucoup Didier. Il y a Lydia qui est là également, qui est maman de 5 enfants. Bonjour Lydia, vous habitez où ?
Bonjour Pascal, j'habite entre Nantes et Pornic, que vous connaissez très bien.
Bon, qui est une région a priori qui était calme, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui entre Nantes et Pornic, mais c'était pas une région, il y a quelques années, qui était soumise à la grande criminalité.
Qu'il n'est toujours pas, ma foi, mais nous nous y approchons, puisque Nantes a tendance à déborder sur nos petits villages, qui malheureusement, on ramène ces gens vers nous dans nos petits villages, et on est obligé de les accepter, parce que, ma foi, nous avons des maires qui sont un petit peu pris à la gorge, où on leur dit, mais il faut construire, il faut investir, il faut mettre des logements sociaux pour pouvoir accueillir ces gens, et là, malheureusement, nous sommes, nous aussi, dans nos petits villages, confrontés à ce genre de problème.
Vous avez quel âge ont vos enfants ?
Oh là, ma foi, entre 32 ans et 13 ans.
Et vous les mettez en garde ? Ils prennent des précautions ? Oui. Sur les 5 enfants, vous avez combien de filles ?
Alors, j'ai 3 filles, les 3 dernières, 25 ans, 14 ans et 13 ans.
Est-ce que vous êtes plus inquiète pour vos filles que pour les garçons ?
Bien sûr que je suis plus inquiète pour les filles que pour les garçons. D'autant plus que au quotidien, on nous démontre aussi que les filles sont aussi agressives que les garçons. Donc, je fais tout pour qu'elles ne le soient pas. Nous avons une éducation qui fait que nous devons respecter la police, nous devons respecter les forces de l'ordre, nous devons respecter les institutions quelles qu'elles soient. C'est la base. Pour moi, c'est la base. À partir du moment où vous apprenez à vos enfants ce respect, il n'y a aucune raison qu'on aille agresser, poignarder. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la base. C'est uniquement ça. Moi, aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte. J'ai pleuré cette nuit. J'ai pleuré parce que encore, j'en ai marre de ce mot encore. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. J'ai honte de cette France. J'ai honte de ce gouvernement qui laisse faire les choses. Voilà. Et mes enfants, je les oblige à faire face à ça en leur disant, voyez ce qui se passe. Vous voyez, vous êtes acteur de ça. Et je ne veux pas que vous soyez acteur de ça. Voilà.
Dans le sens, c'est vrai que ce gouvernement vient après d'autres gouvernements qui ont une responsabilité. En fait, c'est 40 ans. Hein. C'est 40 ans de mauvaises décisions, 40 ans de vagues successives d'immigration, 40 ans de l'asile, de roi d'asile dévoyé, parce que c'est extrêmement important aussi. C'est 40 ans de contrôle aux frontières qui n'existent plus. Et c'est ce que disait Didier il y a quelques instants. Je ne reconnais plus ma ville de Châteauroux. Mais dire cela pendant des années, c'était être considéré comme un homme d'extrême droite. Donc, et la droite française, qui était piégée par ce discours, n'a pas su tenir un discours différent. Donc, vous avez aujourd'hui les conséquences de toutes ces politiques qui ont été menées en France. Voilà. C'est ainsi, et je pense que ça ne va pas être simple d'inverser la courbe, si j'ose dire, Lydia.
Ça peut l'être, Monsieur Pro, ça peut l'être s'il y avait juste un mot qui se mettait un peu plus en action, c'est le mot courage. Nous avons aujourd'hui des politiques qui n'ont le courage de rien. De rien.
C'est vrai, non, mais on l'a vu avec la séquence Sciences Po, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais la séquence Sciences Po, c'est un révélateur du manque de courage. Vous avez 200 activistes qui se prennent pour des Che Guevara en barboteuse, et vous avez Sciences Po qui plie, le gouvernement qui plie, la ministre de l'éducation supérieure ou de l'enseignement supérieur qui plie, le gouvernement Attal qui plie, monsieur Attal qui bandait les muscles en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, vous savez ces formules, on sera intraitable, on ne laissera rien passer ». Eh bien, 200 activistes arrivent à avoir le dernier mot, c'est-à-dire qu'aucune sanction ne sera émise contre eux. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce pays ? En fait, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Souvent, moi, Lydia, je dis c'est fichu, donc on me reproche de dire ça. On me dit, t'as pas le droit de dire ça. Bon, bah, écoutez, tous les jours, c'est un peu plus fichu. Donc,
Le gouvernement m'a demandé à me demander si je ne vais pas demander un asile politique, moi, pour partir, effectivement.
Oui, on aime trop la France, d'ailleurs, mais on est là où vous avez raison, c'est qu'il y a un mélange de honte, de colère. Mais j'ai envie de dire, On n'a même pas le droit, nous, de dire ça par rapport aux parents de Matisse. Voilà, la vraie colère, la vraie tristesse, le vrai chagrin.
Mais c'est parents que je pense, mais évidemment, bien sûr. Là, on a même et pas... c'est pour ça que dans mon post que j'ai mis sur Facebook, j'ai demandé pardon, pardon Matisse, parce que, pardon, on a laissé faire les choses. Et maintenant, point gros point d'interrogation, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Parce que rien ne bouge depuis des années, rien n'est fait. Et c'est encore un de plus, et j'en ai marre d'entendre un de plus. C'est pas normal, on ne doit pas parler comme ça d'un enfant, c'est pas un de plus, c'est un de trop.
Sciences Po est une séquence qui sera un marqueur, parce qu'il y a tout dans cette séquence, la lâcheté, la soumission française. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po, il y a sans doute moins de 200 activistes. Eh bien, la direction de Sciences Po, la direction Paillasson, s'est couchée devant eux, et Madame Retailleau, qui est la ministre Carpette, ministre soumission, ministre Paillasson, a félicité, figurez-vous, Sciences Po. Aucune sanction ne sera prise contre ceux qui ont fait de Sciences Po l'annexe de la France insoumise. Ils ont empêché une étudiante juive d'entrer dans l'amphi. Ils ont crié « Israël assassin ». Ils ont empêché la majorité des étudiants de travailler. Peu importe, ils ont gagné. La direction cède, elle est tétanisée, et le gouvernement valide, il est paralysé. Alors moi, je pense à Gabriel Attal, qui était allé à Sciences Po, et certains avaient dénoncé une entreprise de com à l'époque. Bah, ils avaient raison. Oui, c'est de la com et rien d'autre. Du flan, du vent. C'est parole et parole. Et moi, ça me rend triste. Triste du spectacle qu'offre le feuilleton Sciences Po. Triste et affligé, plus encore, de son dénouement. On est avec Pierre-Alexandre, qui est, je crois, étudiant à Sciences Po. Bonjour Pierre-Alexandre.
Bonjour, c'est ça, c'est exact. Merci,
et moi,
Pascal,
ça me fait de la peine, en fait. Je vous assure, ça me fait de la peine. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis à la fois en colère et j'ai du mal en plus à comprendre, pour tout vous dire, parce que c'est 200 personnes. C'est mais 200 personnes. Je veux dire, et tu cèdes devant 200 personnes. Je n'arrive même pas à comprendre cet état qui laisse faire tout ça.
Mais nous non plus, on comprend pas, et c'est pour ça. Enfin, moi, je représente plusieurs étudiants aussi qui partagent ce que je pense à l'école de droit. Voilà, moi, ça fait 6 ans que je suis sur le campus de Paris à Sciences Po. Je n'ai jamais vu l'école dans cet état-là. En réalité, il y a un changement de public très clairement à Sciences Po. C'est en train de devenir de plus en plus une école de militants. Nous, on veut simplement étudier. Et quand on voit qu'il y a 15 personnes qui viennent bloquer le campus et qu'on leur cède tout, c'est-à-dire qu'ils viennent perturber les examens, ils viennent bloquer Sciences Po, ils viennent intimider d'autres étudiants, des personnes qui ne sont pas d'accord avec elles, et à la fin, on leur cède tout. Vous avez parlé voilà, d'une direction Paillasson. Aujourd'hui, il n'y a même plus de direction, il faut dire les choses. Donc c'est très triste en réalité. On est en colère, on est sidéré, et on a honte d'être assimilé. On a honte d'être assimilé à ce qui est en train de se passer à Sciences Po.
Et quand je dis c'est une minorité, vous validez cela ?
Ben, c'est très difficile à dire parce qu'en fait, justement, le propre d'une majorité silencieuse, c'est de ne pas s'exprimer. Donc en fait, c'est très difficile à dire s'ils sont une minorité ou pas. La réalité, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'à Sciences Po, il y a 55% des étudiants qui affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui souhaitent simplement travailler, qui sont en train de passer le concours de l'ENM, qui se préparent au concours de l'ENA. Des étudiants comme nous qui sommes en train de préparer l'examen du barreau. Donc en fait, il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas le temps tout simplement de faire des espèces de pseudo manifestations devant le campus et qui veulent simplement travailler. Et ces gens-là ne s'expriment pas.
C'est entendu. Mais pourquoi cette majorité silencieuse précisément reste-t-elle silencieuse ? Pourquoi tous ces étudiants ne disent pas, il y en a
bien
marre,
sûr.
Et c'est le problème dans notre société d'aujourd'hui, puisque seules les minorités actives sont entendues, qui sont par définition minoritaires, et vous avez 90% des gens qui ont envie
bien
de
sûr.
Travailler et qui se font ennuyer, pour ne pas dire utiliser un autre terme, par quelques énergumènes.
Pour moi, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est, comme on en discutait avec un professeur assez éminent à Sciences Po, justement avec des camarades l'autre jour, c'est qu'en fait, nous, on a une culture plutôt libérale, dans le sens où, voilà, nous, on est des individus qui allons étudier individuellement et qui voulons tout simplement travailler, accumuler de la connaissance, etc. Et on n'a pas cette culture qui nous vient de l'extrême gauche, de l'organisation de blocages, de manifestations bruyantes, de provocations. On n'a pas cette culture-là. Donc ça, c'est la première chose qui fait que les étudiants devraient s'interroger sur la manière de lutter contre ces minorités très bruyantes. Et puis, tout simplement, la deuxième raison, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants qui travaillent vraiment, les étudiants qui, comme moi, font des alternances à côté de leurs études, on n'a pas le temps, en réalité, pour financer nos études, etc., de militer, de bloquer, de s'adonner à ce genre d'activité. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, en réalité, c'est une minorité qui a les moyens de prendre son temps, de prendre sa journée pour embêter le reste des étudiants.
Pierre-Alexandre, moi, je ne vous connaissais pas. Je trouve formidable ce que vous dites. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous êtes de Paris ou vous venez de l'extérieur ?
Non, moi, je suis du Finistère Nord et je suis arrivé.
C'est pour ça.
Je suis arrivé à Sciences Po en 2018.
Bon, en 2018 ? Ah ouais, vous êtes arrivé jeune, vous avez 23 ans, donc vous étiez arrivé au sortir du bac.
Bon, exactement.
Et vous êtes, ce que vous dites, je trouve formidable pour tout vous dire, et j'ai presque envie que vous veniez ou en studio ou en plateau nous en parler. Je ne sais pas si vous accepteriez de venir.
Mais avec grand plaisir.
De montrer votre visage, parce que dans ces cas-là, peut-être que ça, faut faire attention. Hein, je dis notamment toujours aux plus jeunes, là, le témoignage, on voit pas votre visage. Faut pas que ça vous mette en difficulté.
Non, mais
si on vous entend,
savez,
par exemple, sur l'antenne de CNews et qu'on découvre votre visage. Mais je trouve formidable ce que vous dites.
Moi, je vous invite. Avec aucun problème.
Eh bien, écoutez, Pierre-Alexandre, je vous invite.
Je veux être avocat plus tard, donc il faut savoir assumer ce qu'on veut dire.
Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée. Il est possible que je vous invite dès ce soir sur l'antenne de CNews, parce que ce que vous venez de dire, je trouve ça formidable. Je ne peux pas vous dire...
Mais avec grand plaisir.
Vraiment, absolument formidable. C'est vous qui nous avez appelé, Pierre-Alexandre, hein ?
Absolument, absolument. Et puis merci beaucoup de relayer aussi ces divergences et de montrer que tous les étudiants ne sont pas assimilables à ce qui s'est passé vendredi.
Bah écoutez, merci grandement. Vous, c'est votre dernière année à Sciences Po ?
C'est ça, dans un mois c'est terminé.
Donc on peut passer aussi le barreau à Sciences Po ?
Exactement. Il y a énormément de personnes qui veulent être avocates, magistrats.
Et vous voulez être... donc vous serez avocat quand ?
J'ai une particularité, c'est que justement, je pars aux États-Unis en août et je vais étudier à Columbia pour passer le barreau américain.
Oui, mais vous voyez, alors vous, votre parcours, j'ai envie de dire qu'il y a un parcours à l'ancienne, parce que ces étudiants, parfois, qui sont des militants, ce n'est pas toujours les plus brillants de l'amphi non plus.
Ah, hein, exactement, et je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites.
Parce que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent être dans la vie que militants. Et j'en connais quelques-uns. C'est-à-dire que si tu les mets dans la vie active et si tu les mets dans la vie professionnelle, ils vont être en très grande difficulté parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit, parce qu'ils travaillent pas beaucoup, parce que c'est pas les plus forts. Donc ils ont choisi pour exister d'être militants. Et ça marche.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et honnêtement, c'est pas ces personnes-là que l'on retrouve en train de faire des stages en parallèle de leurs études pour les financer notamment.
Mais bien sûr. Ils ont bien compris. Et alors, ils ont des égos parfois très très forts, ces militants. Ils ont envie de faire parler d'eux. Comme ils savent que par leur travail, ils auront du mal à faire parler d'eux, ce sont des activistes. Voilà, ils ont trouvé... je fais un peu de psychologie sommaire, mais je ne crois pas être loin de la vérité. Et mon expérience, en tout cas, je l'ai souvent remarqué. Je vous remercie grandement. Pierre-Alexandre, on va garder vos coordonnées, bien évidemment. Et ce que vous avez dit est absolument saisissant de vérité sans doute. Merci.
Merci à vous.
Bon, c'est vrai que ça a été une première heure dense.
Intense.
Et dramatique, on aime avoir un peu de légèreté et on ne l'a pas eu à juste titre. Dans la deuxième partie de l'émission, nous avons des thèmes différents, Monsieur Tessier.
À quel âge faut-il donner un premier portable à son enfant ? Alors certains disent à partir du collège, d'autres à partir du lycée, certains même l'ont déjà en primaire, imaginez.
Oula.
Oui, effectivement. À part ça...
On va faire les choses dans l'ordre. Ah si, est-ce que vous aimez les hôtels adultes only ? Pour adultes seulement.
Sans enfants.
Voilà, sans enfants. Les vacances sans enfants, est-ce que ça vous choque ?
De temps en temps.
Bah.
De temps en temps.
Non, mais que vous partiez.
Allez au bar, Géraldine.
Que vous partiez de temps en temps. pour se retrouver comme si en couple sans enfants, j'entends bien. Mais de là à aller à, dans des endroits où vous ne verrez même pas les enfants des autres, parce que c'est exactement ça le concept de, d'adulte nuit.
Voilà.
Ouais, enfin moi ça m'a jamais dérangé de voir les enfants des autres.
Certains ça dérange à la piscine.
Oui, enfin, il y a des gens qui sont insupportés partout, oui, bien sûr, mais c'est plutôt gay, des enfants, ça...
Bah, les enfants, ça vous dérange pas dans les restaurants, par exemple?
Non, mais,
que vous aviez dit, l'autre
je, non, mais parce que je pense que les enfants en bas âge n'ont rien à faire dans un restaurant. Quand je vois des enfants de 3 ans dans un restaurant, je pense que c'est pas sa place. Ça, c'est autre chose.
Mmh, d'accord, ok.
Hein
oui. Non, mais si vous le dites.
Non, mais un enfant de 10 ans, ça a sa place.
Elle vous allume, moi, je trouve.
Voilà, non, mais un enfant de 10 ans, 12 ans, ça peut aller au restaurant, mais un enfant de 3 ans...
Ça peut aussi.
À 3 ans?
Bien sûr.
Ah bon?
Il y a débat, c'est bon, le sujet est pris.
Et puis, le mariage à Goudelin.
Ah bah oui,
comment ça s'est passé avec les sœurs?
Ah bah on va appeler Aurélie et Virginie. Voilà, savoir si elles ont dit oui toutes les deux.
Ah oui, parce que si elles ont dit non.
Est-ce que vous êtes déjà allé dans un mariage
où on dit non?
Où on dit non?
Ah non, jamais, vous oui? Ça vous est déjà arrivé?
On dirait un sketch de Raymond DeVos. Et vous oui? Non, non, mais si. Mais
Non, mais ça vous est déjà arrivé?
Mais non, ça arrive jamais. Ça,
ah
arrive
bah ça peut arriver. Ça au arrive dernier moment, on se dit ah bah en fait, j'ai pas envie.
Dans les films, non. Je connais des gens qui ont stoppé leur mariage 2 mois ou 3 mois ou 6 mois avant.
Mais pas pendant la cérémonie.
Bah, tu peux pas humilier quelqu'un. Enfin, vous rendez compte l'humiliation?
Bah, tu peux te rendre compte. Ah, c'est en fait, arrivé, t'as plus envie.
Le jour même.
Bah oui. Bah, attendez.
Oui.
On peut revenir en arrière à tout moment. Hein.
Oui.
Les parents.
Alors, je vais vous dire même.
Ou si quelqu'un s'oppose comme
non,
ça.
Non.
On se lève.
Je vais vous dire même. Oui. Si vous pensez que vous vous êtes trompé, ce jour-là, à ce moment-là.
On fait semblant.
Vous devez dire oui.
Ah oui. D'accord.
Vous n'avez pas le droit d'humilier quelqu'un. Mmh,
non, d'accord.
Comme ça.
Oui. D'accord. Bon, bah, je note.
Vous divorcez, vous dites le lendemain ou 6 mois après.
Oui,
ou,
d'accord.
Bon.
D'accord.
Bon. Mais vous ne pouvez pas faire ça.
Mais le jour même, on dit oui, quoi. Voilà, bah, forcément.
Vis-à-vis,
oui.
Enfin,
non,
avez...
oui. Non, mais d'accord. Bah, je suis la notice. Je vais dire oui.
Mais ce n'est pas la notice.
Mais ça a dû arriver.
C'est,
hein.
C'est... Mmh. Oui, ah, oui. Oui, ça a dû arriver. Mmh. Mais vous êtes d'accord avec ça, quand
même. Non, mais je suis d'accord. Oui, je suis trop sincère. Moi, si c'est non, c'est non. Je le dis devant tout le monde.
De toute façon, vous, le problème ne se posera pas.
Oui.
Et nous sommes toujours évidemment avec Géraldine Hamon.
Oui, Pascal.
Nous sommes toujours avec Fabrice Lafitte.
Oui, toujours présent.
Qui aujourd'hui n'est pas habillé comme Raël, exceptionnellement.
Oh, non, je préfère comme Eddie Barclay et les Soirées Blanches de Saint-Drope.
Exactement. Notre ami Laurent Tessier qui est là.
Toujours
Laurent.
Là.
Carassou Maillan, et puis notre ami Olivier Guenec.
Bonjour à tous.
Qui a passé un bon week-end.
Ah oui, très bon week-end, oui, ça s'est très bien passé, merci.
Puisque vous nous aviez dit que vous étiez à Dublin.
Du côté de l'Irlande, exactement. Beau pays, belle ville, belle population.
N'est-ce pas? Il est content.
Oui. Il est non, content. Non, c'est très bien passé.
Ah bon?
On va pas en parler maintenant, mais non, c'était top.
Donc l'Irlandaise.
Ah, qu'est-ce que vous.
A été séduite.
Franchement, on joue carte sur table ou pas?
Oui.
Est-ce qu'on vous a donné des infos sur mon week-end ou pas? Non, mais parce que sinon, ça va pas me plaire.
On m'a dit qu'il y avait une balade irlandaise qui s'était bien passée.
Exactement, bon, on vous a un petit peu parlé. Oui.
Elle s'appelle comment? Mégane ou...
Non, mais ce qui est vrai, c'est que. En France, je suis exécrable, on va dire les choses comme
oui,
elles sont.
Oui.
C'est-à-dire que je ne pécho jamais. Enfin, je ne. Voilà, je
n'ai. Oh,
excusez-moi. Excusez-moi.
Non, mais voilà. Je ne pécho jamais.
Bon, bah, je me tais. Si on, bon. Voilà,
et
la liberté d'expression.
Donc
eh ben, là-bas, j'ai.
Vous êtes un sexe symbole.
Non, mais. J'ai eu deux petites. Voilà, deux petites. Pas deux.
Deux petites aventures.
Bah,
deux
petites. Non, deux. Enfin, aventures. C'est voilà.
En un week-end.
J'ai pécho à deux reprises. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui.
Pécho.
Bah oui, bah pardon. Mais vous le dites comment, vous?
Mais je dis rien. D'abord,
j'ai flirté.
Non, mais c'est voilà. Dingue, quand même. Cette efficacité à l'étranger.
Vous êtes obsédé. Vous allez en 24 heures et vous avez deux aventures sentimentales.
Bah, écoutez, c'est comme ça. Voilà. Hein. Voilà, je suis un sexe symbole et c'est pas de ma faute.
Et quel âge? 70? 80?
Sans le dentier, en plus. Sans arrière.
Comment vous savez que nous. Comment?
Je disais juste à vous, comment va Claire?
Non, Claire. Ça donne les prénoms.
Elle s'appelle Claire.
Non, mais on donne...
Ah ouais, c'est un prénom irlandais, effectivement. Bon, le cirque Muller pourra conserver son vieil hippopotame Jumbo. Vous savez qu'on aime avoir un peu de suite dans les idées.
Hein.
Hein, oui, puisque nous avions parlé de ça. C'est une décision vendredi du Conseil d'État. La haute juridiction a dépouté une association de défense des animaux qui réclamait son retrait au motif qu'il ne se produit plus en spectacle. On va écouter Alexandre Muller, qui est le directeur du cirque Muller Zavatta. Il est interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1.
C'est la fin de bêtises par rapport une association qui s'acharnait sur nous, parce que nous, notre animal, il est en très très bonne santé. Retirer notre hippopotame pour le mettre ailleurs, on n'est pas d'accord. Bon, il va très très bien, on l'a encore ce matin, il est là, il est dans sa piscine extérieure, on y fait ses soins, on nettoie sa remorque. Ouais, je veux dire, il est tout à fait bien, on a encore eu des contrôles vétérinaires assez souvent, il est en très très bonne santé. Je pense qu'il y a d'autres maltraitances que notre hippopotame allait regarder avant de s'acharner sur nous.
Voilà, l'affaire est close. Nous changeons de
13h.
Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, t'es un peu rapide sur ce coup-là. Excusez-moi, j'étais réveillé.
Lui, c'est soit il fait un blanc, soit il envoie en avant. C'est dingue.
C'est la première fois que je vous vois si rapide.
C'est vrai.
Est-ce qu'on peut terminer ma phrase? Ça vous ennuie pas, Fabrice Lapitte?
Allez, je le renvoie.
Ah oui, c'est moi qui vais vous renvoyer, surtout si ça continue.
11h, 13h.
Pascal Praud sur Europe 1.
C'est quand même, c'est un funambule, hein, Fabrice Lafitte. Hein. Il était, vous étiez dans le sous-sol lorsqu'on est arrivé dans les fameuses coulisses d'Europe 1.
Oui.
Hein, qu'on fait visiter, où on voit des spectres, parfois des fantômes.
On l'a bien dépoussiéré depuis le début de l'année.
Il est formidable. Je vous taquine, mais je vous aime.
Et oui, moi aussi, merci beaucoup.
Et vous êtes formidable et notre petit groupe vit bien. Grâce à vous, en partie.
Oh là !
Ah oui, on a plein d'avantages grâce à lui.
Oh non, c'est autre chose. Bon, faut-il interdire les portables avant l'âge de 15 ans ? Mais là encore, la question est mal posée. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
C'est Laurent Tessier qui l'a posée.
Merci. Bon. Selon l'association e-enfance, 46% des 6-10 ans sont équipés d'un smartphone. Alors ça, c'est pas la même chose. Moi, je suis partisan, pourquoi pas, que les enfants, on leur donne le Nokia 3360 avec le petit clapet, parce que ça, ils peuvent joindre leurs parents. En revanche, le smartphone, la différence, la question est différente. Parce que vous posez mal la question. Est-ce qu'ils doivent avoir un smartphone ?
Vous insistez là quand même.
Mais oui, parce que c'est pas la même chose.
Non, vous êtes très mauvais, Laurent.
Non, mais c'est pas la même chose. Un portable, un téléphone, pourquoi pas, s'il ne fait que téléphone.
Ah, alors, smartphone.
Ben, vous êtes d'accord,
oui, je suis d'accord.
Géraldine. Donc la question est même posée. Donc, voilà. On va écouter Annelise Ducanda, qui est membre du collectif Surexposition Écran, interrogée. Ben voilà. D'ailleurs, elle est membre du collectif Surexposition Écran. T'as pas de surexposition écran avec le Nokia 3360.
Ah, encore faut-il qu'il marche, le Nokia.
Mais moi j'en ai toujours un, mais alors, il marche.
Oula,
pas.
Vous le prenez jamais ici alors, hein.
Non, mais il est dans. Si je le sortais, il serait réactivé, j'imagine. Je ne l'ai pas jeté. Il marche toujours.
Non, mais oui, c'est sûr que les fonctions sont limitées. C'est, oui, pour vous, vous ne pourriez jamais avoir un téléphone comme ça, vous, par exemple. Jamais.
Mais moi, je ne suis pas un enfant, quoique.
Ah, pardon, oui.
Quoique. Bon, Annelise Ducanda, qui est membre du collectif sur Exposition Écran, elle est interrogée par Laurent Tessier, qui n'avait pas posé la bonne question.
Recommander d'attendre le brevet, c'est-à-dire d'attendre le lycée, d'attendre 15 ans pour équiper l'enfant du smartphone à cause des risques qui sont de plus en plus reconnus du smartphone pour l'enfant. C'est extrêmement difficile de résister. L'enfant dit à ses parents « tout le monde en a un sauf moi », ce qui n'est pas vrai, il y en a toujours au moins quelques-uns maintenant de plus en plus qui n'en ont pas. Mais vraiment, il faut résister pour le bien-être de votre enfant. Et il faut donc que les pouvoirs publics, les politiques, aide et soutiennent les parents, parce que seul contre tous, c'est pas possible. Donc il faut des grands messages de prévention chez tous les parents à partir du CP, parce qu'on a aujourd'hui 46% des 6-10 ans qui ont déjà leur propre smartphone. Il faut qu'il y ait un message vraiment qui soit diffusé dans toute la France pour attendre le brevet pour équiper l'enfant du smartphone.
Mais oui, ça c'est une parole... Ça, vous savez ce que ça s'appelle, ça ? C'est une parole de quoi ?
Mais je sais pas.
De bon sens.
Ah,
c'est une parole
bon sens. Oui.
Le bon sens près de chez vous. Il est 12h12. Karine est avec nous. Bonjour Karine, vous êtes experte en assurance vie.
Tout à fait. Bonjour Pascal, si vous êtes, bonjour tout le monde.
C'est dire si vous êtes effectivement la personne qui peut parler des smartphones.
Pas tout à fait, mais moi en tout cas, j'ai mon avis.
Elle est maman aussi.
Mais, bien sûr, et puis moi, ça m'intéresse l'assurance vie. Vous me direz...
Vous êtes en plein dedans là.
C'est agréable. Vraiment. Monsieur Tessier.
Non, c'est un plan d'épargne retraite, il voulait dire.
Bon, on aura Claire tout à l'heure au téléphone en direct de Lille.
Non,
il est 12h13. Allez, il y a deux, trois choses à vous dire.
Non,
avec Léa.
Comment ?
Avec Léa. Avec Léa.
Non, avec mais Léa. Ça par contre, c'est non, ça.
Une sacrée surprise.
C'était pas ensemble, rassurez-moi.
Non.
Mais c'était à 20 minutes d'intervalle. Ah oui.
Ah mais vous êtes une capacité de
bouillant. Enfin si je peux me permettre, oui.
Ah oui, mais ça mais vous avez réactivé l'affaire en 20 minutes.
Ah mais je c'était excellentissime. Vous auriez été fier de moi. Ah oui. J'ai failli vous envoyer un petit selfie avec elle.
Alors attention, ils s'emballent, ce sont juste des bisous hein.
Ouais,
ah oui.
Ça... Ah bah oui. Je l'ai dit.
Ah, je pensais
mais attendez, je jouais à l'extérieur, je pouvais pas c'est compliqué pour moi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, bonjour, si vous avez embrassé deux filles à 20 minutes d'intervalle.
Oui, mais c'est un retour quand même, un retour.
C'est un retour gagnant. T'es et vous avez dormi où à Dublin?
Dans un Airbnb avec mes amis, voilà.
Et vos amis aussi, ils ont
Ah non, j'étais le seul. Ah non, j'ai été bien meilleur que la masse.
Vous avez dîné là-bas?
Oui, bah, j'ai tout fait. Vous comprenez bien que quand on reste 3 jours, on fait tout.
Mais vous êtes rentré quand?
Hier soir, à 1h du matin.
Il y a des avions à 1h du matin maintenant.
Non, il était en retard.
Et vous étiez parti vendredi?
Oui, chef. Et j'ai failli pas monter, on en reparlera tout à l'heure.
Vous avez failli pas monter
sur Booking, vous savez ce que c'est le surbooking?
Oui, je sais ce que c'est, ouais, je suis pas, vous me prenez pour qui?
Bon, ça va.
12h14.
Méchant.
Méchanceté. Mais dis ça, et Eric derrière. Parce que je la taquine un peu, vous voyez, comme.
Oui, je vous connais un petit peu.
Voilà, on dit des choses, donc Eric, voilà.
Très bien.
Et dit méchanceté.
T'as la raison.
Nicole Croisille. Un jour, il faudrait qu'on reçoive Nicole Croisille. Vraiment, parce qu'elle est magnifique, Nicole Croisille. Et puis, ses chansons sont admirables. Et il y a une quinzaine de titres. Il y a Emma. Emma, elle s'appelle Emma. Voilà.
D'accord, non.
D'accord. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, Karine, experte en assurance vie. Karine, vous avez des enfants?
Oui.
Quel âge ils ont?
Donc j'ai 3 enfants avec mon conjoint. Donc mon conjoint a 2 enfants qui ont 25 et 27 ans. Ah et oui. Moi j'ai un enfant qui a 20 ans.
D'accord. Bah, 20
mais il y avait déjà cette problématique-là. Donc c'est assez épatant de parler d'enfants qui ont 20, 25 et 27 ans. Où dès qu'on propose des règles aux enfants, on se fait passer pour la maman très autoritaire et qui est la maman pas gentille. Alors que je pense qu'il faut mettre des règles. Je suis un peu d'accord avec vous, il faut un portable parce que maintenant les situations, le portable existe déjà et il a son utilité, mais il faut des règles en fonction des enfants que l'on a et de la situation dans laquelle on est. Donc nous les enfants avec leur portable pour parler à leurs parents respectifs, parce que automatiquement recomposition familiale, il n'y a pas le choix. Mais par contre, il faut vraiment limiter le Internet. Et par contre, je suis pas d'accord avec la personne qui a, enfin, avec le sondage. Je pense que c'est pas à la collectivité. Je pense que les parents doivent reprendre leurs responsabilités. C'est aux parents d'élever leurs enfants. On doit élever nos enfants. On doit leur donner des règles. On doit les mettre sur les rails. Et il faut arrêter d'interdire tout. C'est une question, comme vous l'avez dit, c'est une question de bon sens. Enfin, c'est simple. Les enfants, ils doivent déjà apprendre.
Mais à partir de quel âge, alors, à votre avis, à partir de quel âge un enfant peut avoir un smartphone?
Bon, pour moi, le smartphone, je suis d'accord, c'est 15 ans, ce serait bien. Après, à 12 ans, on peut commencer à leur mettre, mais il y a des petits forfaits d'une heure d'Internet, de 50 gigas sur Internet, qui peut leur permettre de voguer sur Internet, même pour savoir. Moi, à l'époque, je me posais des questions, j'allais dans le quid, parce que c'était ça à l'époque.
Ben oui.
Maintenant, on vit avec notre temps. S'ils me posent une question, je préfère qu'ils aillent sur Internet pour voir la définition d'une chose, plutôt qu'ils restent ignares et qu'ils ne sachent pas de quoi ils parlent. Donc,
mais bon, vous, le plus jeune, à quel âge dans votre fratrie?
Alors, maintenant, moi, ils sont grands. Ils ont 20, 27, 25 et 27 ans. Et je leur ai appris à prendre le portable avec parcimonie. Sauf qu'évidemment, on est dans un monde où tout va vite et ils ont tous leurs amis sur leur portable, mais en fait ils ont même plus d'amis parce qu'en fin de compte ils se rendent compte que ils passent leur temps sur leur téléphone et puis ils arrivent même pas à prendre à faire 100 mètres pour aller dire bonjour. Donc c'est un vrai problème quoi. Donc il y a pas que les enfants, hein. C'est tout a été trop vite et on a oublié en fait les vrais liens humains et donc le portable il est un petit peu un blocage de tout quoi. Mais bon, il faut déjà qu'un enfant se construise avant de commencer à aller voir sur les réseaux sociaux comment sont construits les autres. faut avoir notre propre personnalité. J'ai entendu, il faut aider les enfants, les parents, parce que c'est difficile, les enfants sont frustrés, mais c'est pas grave s'ils sont frustrés, c'est comme ça qu'ils se construisent.
Non, mais je partage plutôt votre avis, et effectivement, c'est vrai que ce portable, avant, pour les enfants, est sans doute pas une bonne chose. Votre fille a un smartphone,
Tout à fait. Elle est en 6e, elle a 11 ans, elle a un smartphone, elle avait téléphone avant.
Vous regardez, vous contrôlez le soir, par exemple. Est-ce que vous contrôlez tous les jours le nombre d'heures qu'elle a sur son smartphone?
Alors, je suis tout le temps avec elle le soir, donc.
Non, mais quand elle revient de.
De l'école.
De l'école.
Non, elle n'a pas le droit au téléphone à l'école. Elle n'a pas de 4G, elle a que le Wi-Fi. C'est interdiction au portable dans son collège, de toute façon.
Ça, c'est bien.
Elle n'a pas la 4G, elle n'a seulement que le Wi-Fi, donc elle peut consulter Internet seulement à la maison et pas à l'extérieur.
Bien sûr.
Et elle n'a que WhatsApp, parce que aussi, je suis séparée, donc c'est pratique pour s'appeler.
J'entends bien.
Mais tant que c'est cadré, pourquoi pas?
Nous, avec Laurent Tessier, on a un enfant, Monsieur Boubouk. On lui a donné le smartphone entre 11h et 13h parce qu'il faut qu'il joigne les gens. Nous, c'est un garçon qu'on a adopté. Là, il a fait son premier voyage de classe. Il est allé à Dublin.
Merci, maman.
Si vous voulez. Oui. Voilà. Merci. Il a deux papas. Si on l'a eu, le petit Boubouk.
On a deux belles filles, du coup.
Ouais,
Non, mais
c'est pas du tout des prénoms Claire et comment elle s'appelle?
Léa.
Claire et Léa, des prénoms.
Elles sont amies en plus. Non, mais ça.
Mais elles sont irlandaises.
Claire, ça peut être irlandais, Claire.
On est tombé sur un groupe de françaises en Irlande et on a fait une soirée avec eux, etc. C'était
avec
génial.
Avec elle en l'occurrence.
Pardon?
Avec elle en l'occurrence.
Oui, exactement.
Et vous avez fait une soirée où ça?
Dans un appartement, très sympa en Irlande. Ah ouais, on s'est vite adapté. Hein.
Mais c'est bien. Vous voyez, c'est bien de voyager. Hein. On voyage pas assez. Vous voyez, on partirait le week-end, on revient.
J'ai mis un déclic ce week-end.
Oui. Mais non, mais c'est différent. Mais faut voyager. Le monde est séparé en deux.
Oh.
Entre ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas.
Oh, vous êtes dur là, non?
C'est Kipling, je crois, qui disait ça.
Ah d'accord, c'est pas vous?
Non. Kipling que vous connaissez.
Oui, vaguement.
Un jour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on retourne.
Et il y a d'habitude vos copines Claire et Léa.
En Irlande.
Oui, mais après, elles sont d'où?
Je m'en souviens plus.
Oh bon, quel goujat. Il ne sait même pas comment ils
ont. On est sur le coup, Pascal, on les cherche.
Arrêtez-vous.
Alors, nous allons parler d'un sujet. Alors, il y a les enfants sans portable et il y a les vacances sans enfants. Donc, les vacances sans enfants sans portable, on pourrait faire un mixte des sujets.
J'ai une petite question.
Les vacances sans enfants, ça vous choque? Oui.
On n'a pas dit au revoir à Karine, me semble-t-il.
À Karine, vous avez parfaitement raison. Karine, bonne journée. Alors, en assurance vie, donnez-moi un petit conseil d'assurance vie. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je batte en touche.
Ah bon? Pourquoi?
Non, mais je ne suis pas conseillère, moi, en fait. Je suis dans les back-office. Donc, je fabrique les produits, en fait, plutôt.
Ah, vous fabriquez les produits. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais fabriquez bien.
Mais le plan d'épargne retraite, le PER, en fait.
Paraît-il que c'est très bien, ça, le plan d'épargne retraite. Il faut le faire. Moi, j'en ai pas, mais paraît-il que c'est très bien. C'est ce que nous avait dit un expert.
Le bon conseiller. Il faut qu'on trouve le bon conseiller qui vous conseille par rapport à vos besoins et pas par rapport à la prime qui va toucher à la fin du mois.
Ah bah oui, mais ça,
vous parlez de Fabrice Lafitte là ou...
Comment je sais qu'il va pas toucher de prime?
Ça c'est toujours, c'est le feeling.
Ah bon, c'est le feeling. Bon, écoutez, merci en tout cas Karine et bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, merci.
Nous allons changer donc de sujet et les vacances sans ses enfants, est-ce que ça vous choque? Ça dépend quand, mais si effectivement tu as des enfants et que tu les vois jamais en vacances, c'est pas rigolo non plus. Vous le faites de temps en temps, les offres Adult Only, je trouve qu'Adult Only a une petite connotation, t'as l'impression que c'est... Pour adultes seulement, se multiplie en France. Le concept séduit des couples qui veulent seulement pouvoir s'amuser, être tranquilles, tu vois, c'est un peu se reposer sans avoir à supporter et qui seront au Cap d'Agde pendant tous les temps. Donc il y a un côté, je trouve, Adult Only qui me fait... Bon,
c'est connoté, oui.
Vous êtes déjà partis en vacances sans vos enfants. Écoutons Jean-Pierre Masse, qui est médiateur du tourisme et des voyages, interrogé par Laurent Tessier.
Ces vacances sans enfants datent du siècle dernier avec les hôtels Sandals aux États-Unis qui avaient créé des hôtels réservés aux adultes, adultes only. Ça se développe un petit peu et ça vise deux types de populations. Les familles qui n'ont pas d'enfants, les couples qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas envie d'avoir leurs vacances perturbées par les jeux, les humeurs, les cris des enfants des autres. Et les familles qui ont des enfants et qui ont envie de respirer pendant leurs vacances et qui profitent de cette occasion pour ne pas avoir à supporter ni leurs enfants ni les enfants des autres.
Non, mais c'est vrai que tu es à la piscine, tu veux te reposer, tu veux faire une petite sieste, il est 14h30, ça nous est sans doute tous arrivé, et tu as un enfant qui hurle, qui a 5 ans dans la piscine, et sa mère ou son père ne lui dit rien, pas une remarque. Et si t'as le malheur de dire une chose, t'as jamais eu d'enfant ? Alors là, boum, tu te rends dans tout de suite.
Vous avez un peu changé de discours, hein. Tout à l'heure, vous ne disiez pas
mais
ça.
Mais parce si que je trouve que c'est bien en même temps.
Ah !
Je trouve que c'est...
Non mais... Ouais.
Non mais je trouve que c'est bien. C'est comme... D'accord. Moi j'aime bien, je vais vous dire quelque chose, j'aime bien entendre les enfants pleurer dans les avions. J'aime bien ça.
À quoi ?
Oui, j'aime bien ça, je trouve que c'est la vie.
Non mais attendez,
mais je trouve que
vous êtes, ça va, vous êtes réveillé, vous êtes,
non, oui. C'est la vie, je trouve que voilà, c'est comme faire la queue au cinéma, c'est pareil, ah, c'est
oui.
La vie, t'es dans la vie.
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors évidemment, pas... s'il est plus loin de toi, c'est mieux. Voilà. Parce que les cris d'un enfant dans un avion...
C'est pas très agréable, on va se le dire.
Ah mais c'est pire que ça.
Mais attendez, vous avez deux discours en 10 secondes.
Mais oui, mais c'est, voilà, je suis plein de paradoxes. Oui. Je suis plein de paradoxes. Bon. Non mais c'est vrai que c'est...
Non, le pire, c'est quand ça vous arrive en tant que parent, quand c'est votre enfant qui pleure pendant une demi-heure et vous n'arrivez pas à le calmer dans les transports.
Ouais, enfin, alors ça
m'est déjà arrivé.
Ah, ouais. Ça m'arrive souvent, Pascal. Hein.
Dans le train, tu vois, pour aller partir en voyage, ça m'est déjà arrivé.
Ça m'est arrivé, mais c'était avec. C'était ma mère, je crois.
Oh la pauvre. Non, mais.
Je blague.
Monsieur, vous écoute, là. Excusez-vous.
Je m'excuse.
Ah, voilà.
Je lui demande de m'excuser.
Maman, plus quand même.
Exactement.
Non,
bon. Bon, il est 12h28. Non. Vous serez là le 1er mai.
Ah oui.
C'est quoi le 1er mai?
Ah, c'est la fête du travail, non?
Bravo.
Ah, yes. Ah bah dis donc.
C'est la fête du travail.
Et Fabrice, il sera là?
Je serai là. Et puis on va distribuer les petites clochettes par bonheur. Et c'est ce jour payé double.
C'est pour ça que je viens.
C'est un jour payé double.
Quoi? C'est pour ça que
bah
je viens.
Là, vous serez payé. Oui. Vous êtes.
J'ai jamais été payé double de ma vie.
Tout le temps.
Quoi?
Ben vous êtes en CDI ici. Vous êtes salarié.
Ah oui, ça y est, on m'a salarié. Oui.
Et ben vous serez payé double.
Oh, c'est génial ça.
Vous serez payé double. Gérald
Ah, croyez-moi, je serai là.
Le 1er et le 2 mai. Alors c'est uniquement si on a travaillé le 1er mai.
Oui.
Le 2 mai, à ce moment-là, on est payé triple.
Non.
Uniquement si on a travaillé le 1er mai.
C'est pas vrai.
Bah, si on a bien travaillé. C'est un accord qui a 72 ans.
Mais non.
C'est l'accord dit triple prime.
Triple prime.
Qui avait été mis en place par Léon Blum.
C'est vrai, hein, Fabrice.
C'est
génial.
Mais il faut travailler pour ça.
Il faut travailler pour ça. On vient le 3 mai.
Le 4 mai. Le 3 mai. Là, c'est 5 quintuples primes.
Mais c'est pas vrai.
Mais uniquement si on a travaillé le 1er et le 2 mai.
C'est pas juste votre contrat, ça.
Vive les vacances.
Alors, je voudrais qu'on écoute Laurence Rossignol, qui est sénatrice socialiste. Elle était interrogée par Laurent Tessier. Voilà ce qu'elle dit sur ses vacances only. Only adulte. D'ailleurs, dites pas only adulte. Franchement, Jean-Marie Rouard, qui est académicien, il se bat contre le franglais. Posez. Laurent Tessier, faut se reprendre aujourd'hui là. Adulte, tout à l'heure la question sur le portable était moyenne, et là adulte only.
Mais non, il se laisse aller, hein, franchement.
Si vous laissez, tu te laisses aller.
Je sors trop le week-end en ce moment, ça va.
Adulte only, non.
Bah, ça se dit.
Mais non, ça se dit en Angleterre.
Merci, Gégé.
Vous garez où, Pascal, tous les jours? Dans le.
Oh.
Dans l'aire de stationnement.
Non, mais là, c'est pas la même chose. Non, adulte only, oui. Voilà, uniquement pour adultes. Voilà, réservé aux adultes.
Non,
là, voilà, je pense. Merci. Écoutons donc Laurence Rossignol de Nos
le
Amours.
Le choc, c'est qu'on est dans une société qui trouve normal et banalise le fait que les enfants puissent être de plus en plus fréquemment exclus des lieux publics, des activités des adultes, du monde en fait commun qui est celui de toutes les générations. Des enfants jusqu'aux personnes âgées. Et j'appréhende ceci comme un signal, un mauvais signal d'ailleurs, d'une société qui se replie sur elle-même, qui a de plus en plus de difficultés à accepter les autres quand ils font un peu de bruit, comme les enfants, qui sont agités. L'acceptation par nous tous de la diversité générationnelle me paraît être indispensable dans une société qui fonctionne bien.
Alors, ce qu'elle dit est intéressant, mais je dirais différemment de Madame Rossignol. Je pense que ce n'est pas une société qui se replie, c'est une société qui privilégie l'adulte à l'enfant. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Ce qui n'était pas le cas, me semble-t-il, il y a quelques années. Par exemple, alors je sais que vous êtes concernée par ça, chère Géraldine, mais la garde alternée, on pense d'abord aux parents. Et je suis pas sûr qu'on pense complètement aux enfants.
Ah mais tout à fait. Ah ben oui. Ah ça, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai pensé à ma fille avant de penser à moi et à son papa. Enfin, on a pensé à notre fille avant.
Oui, mais elle est, vous êtes en garde alternée.
À garde alternée, mais pas une semaine, une semaine. Elle est avec moi la semaine, avec son papa le week-end,
exactement.
Par exemple.
Donc ben, pour elle, c'est beaucoup mieux. Ben, vous avez eu bien raison, parce que aujourd'hui, c'est les adultes qui sont privilégiés dans plein de domaines.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est effectivement le cas. On pense, c'est le TPMG. Vous savez ce que ça veut dire, TPMG ?
Non, dites-moi.
TPMG, ben, vous cherchez, vous trouvez.
Oh, TPMG.
Non, tout pour tout, ma...
Voilà, tout pour ma gueule. Ah, c'est ça, d'accord. C'est ce syndrome-là, de dire les adultes ne pensent qu'à eux. Mais les enfants, ben, effectivement, il faut penser, faut les mettre au cœur de toutes les décisions a priori qui sont prises, notamment pour l'école, pour l'éducation, etc. On est avec Sandra. Sandra, vous êtes maman de deux filles. Elles ont quel âge ? 15 et 7 ans.
Tout à fait.
Et vous habitez où ?
Dans le Val-de-Marne, à Brie-sur-Marne.
Et parfois, vous partez sans vos filles en vacances ?
Tout à fait. Bon. Une fois tous les trois ans.
Oui, donc c'est pour vous retrouver, comme on dit.
Complètement. C'est tout à fait le but.
Et là, c'est cette année ou c'est dans l'année prochaine ?
On espère l'année prochaine.
L'année prochaine. Bon. Et la dernière fois, vous êtes allés où ?
La dernière fois, nous sommes allés... Oh, alors là, ça remonte à très très longtemps. C'était Bali.
Bali. Mais est-ce que vous avez l'occasion, parfois les grands-parents c'est bien utile, est-ce que vos enfants par exemple vont de temps en temps chez vos parents ou les parents de votre mari ou chez amis et vous donnent un petit peu de temps libre si j'ose dire ?
Alors oui, puisque mon mari est d'origine portugaise, mes beaux-parents vivent au Portugal, donc les filles vont depuis qu'elles sont toutes petites, passent l'été au Portugal et nous on les rejoint.
Bon. Et
donc effectivement, l'été, on a deux mois où elles sont pas là.
Ah oui. Ah bah oui, non mais là
c'est pas tous les trois ans.
Oui, c'est non mais.
C'est... Ah non, là c'est à part de nos vacances à nous, puisque effectivement on travaille.
Mais elles partent. Pourquoi elles partent deux mois ? Mais c'est l'été.
C'est l'été, ouais, tout à fait.
Mais qu'est-ce que vous faites vous l'été ?
Eh ben je travaille. Et quand on a nos vacances avec mon mari, on les rejoint.
Ah oui. Donc vous n'êtes pas deux mois sans les voir.
Alors non, ah non, on les.
En fait, je comprends rien. C'est pas très
alors,
clair.
Alors en fait, moi je j'ai pas deux mois de vacances l'été, mon mari non plus.
Oui.
Donc effectivement, depuis qu'elles sont petites, pour pouvoir aussi avoir du lien avec leurs grands-parents et parce que les grands-parents le réclament, elles partent au Portugal l'été.
Oui, j'ai compris.
Voilà, et nous, en fonction, si on est en vacances,
vous les rejoignez trois semaines.
On les rejoint, donc il y a un mois où on les voit pas.
Bon, de toute façon, c'est bien aussi pour les enfants de ne pas toujours être avec les parents, bien évidemment. Mais forcément, la vie à deux change lorsqu'on a des enfants. Je ne sais pas si vous avez vécu beaucoup avec votre mari avant d'avoir les enfants, mais c'est un changement dans la vie quand les enfants arrivent, lorsque l'enfant paraît.
Ah mais complet, ça n'a rien à voir. En plus, moi j'ai un mari qui travaille beaucoup. Donc effectivement, quand on n'a pas d'enfant, c'est plus facile de se rejoindre le soir pour un resto, pour aller au ciné, pour plein de choses. Et quand on a des enfants, on ne va pas aller traîner ses enfants au resto à 10h du soir. On ne va pas... Après, il y a les activités. Il y a la vie avec les enfants que tout le monde a. Et donc effectivement, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir partager, se diviser, se détripler même parfois. Et donc c'est pour ça. Quand vous avez une activité à un endroit, 5 minutes de délai, le goûter dans la voiture.
Bien détriplé ce week-end à Dublin, le petit, le jeune. Merci Sandra, merci beaucoup. En tout cas, elles s'appellent comment vos filles ?
Anna et Elena.
Ah, c'est joli. Anna et Elena, elles sont 15 et 7 ans. Et de quelle région du Portugal il est votre mari ?
Du nord du Portugal, de Villarreal.
Ah, mais Villarreal, c'est pas en Espagne ?
Non.
Villarreal, c'est au Portugal. Alors,
Ouais, il y a deux Villarreal au Portugal. Il y en a un au sud qui s'appelle Villarreal de San Antonio et il y en a un dans le nord.
C'est bien le Portugal, hein. C'est merveilleux, hein.
Ah, c'est très beau.
C'est beau. L'Algarve, c'est vraiment bien.
Vous y allez souvent, non?
Non, pas souvent, mais j'y suis souvent allé par le foot d'abord, parce qu'on allait souvent à Lisbonne et puis à Porto voir des matchs. Et puis, ça m'est arrivé d'aller en vacances dans le sud du Portugal, dans l'Algarve. Donc, c'est
magnifique. J'avais ce souvenir, oui.
Oui, bah, voilà. Vous n'êtes pas venu avec moi.
Villarreal, c'est pas très touristique. Hein.
Comment?
C'est pas très touristique, mais c'est justement le retour aux sources.
Eh bien, écoutez, merci à vous et bonne suite, Sandra. On est avec Virginie Cadeau. Alors, si vous étiez vendredi avec nous, Virginie n'était pas mariée vendredi et Virginie et Aurélie sont deux sœurs qui se sont mariées toutes les deux ensemble le même jour à Gourdelin, comment ça s'appelle le petit village?
Dans les Côtes d'Armor, c'est Gourdelin.
Gourdelin, pardonnez-moi, Gourdelin. Alors, Aurélie et Virginie, alors racontez-nous comment ça s'est passé, Virginie, ce mariage. D'abord, est-ce que vous avez dit oui?
Bien sûr que oui.
Ah, bon, mais alors vous avez dit oui ensemble au même moment dans, quoi, avait dit, c'était quoi, au même moment? C'était dans la même salle avec les mêmes invités et il y en a une qui est passée avant l'autre.
Exactement, on a fait passer l'aîné d'abord.
Oui, l'aîné c'est Aurélie.
Donc moi.
Non, l'aîné c'est vous,
moi,
c'est Virginie.
Virginie.
D'accord, et vous avez dit oui.
Ça n'a pas changé depuis vendredi, je suis toujours l'aîné.
Bon. et prends ça dans tes dents, Robert. Et comment ça s'est passé alors? Racontez-moi.
Eh bien, merveilleusement bien. Tout le monde était ravi, on était à la ferme de Kérogel.
Oui, je ne connais pas.
Et c'est à Gourdelin.
Eh oui, j'imagine que c'est pas Villarreal. Mais racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, si vous avez dansé, s'il y a une petite anecdote, s'il s'est passé quelque chose de rigolo, s'il y a eu est-ce qu'il y a eu des discours, par exemple?
Des discours, oui, on a remercié tout le monde beaucoup de fois.
Oui. Mais est-ce qu'il y a eu un discours des uns et des autres?
Eh bien, les trois familles se sont remerciées tout le temps d'être là et de partager ce merveilleux moment.
Il faudrait demander à la maman qui est juste à côté.
Denise.
Denise.
Denise,
elle est là, Denise. Et vous avez dansé ou pas, Virginie?
Bien sûr, j'ai dansé avec ma robe de mariée.
Vous avez dansé sur quoi?
Sur du AC/DC, sur...
Avec une robe de mariée, c'est AC/DC, vous voulez dire. AC/DC. Et vous êtes couché à quelle heure?
Oh, 5 heures
de matin. Bon, il n'y a plus aujourd'hui la soupe à l'oignon, tout ça, cette tradition n'existe plus.
Non.
Le lendemain, c'est ça, la soupe à l'oignon?
C'était la nuit, la soupe à l'oignon, c'était vraiment très, très chic. C'est-à-dire que tous les invités allaient dans le lit de la mariée pour lui donner la soupe à l'oignon et assister, parce que la nuit de noces voulait tout dire.
Mais en quoi la soupe à l'oignon?
C'est une tradition d'apporter la soupe à l'oignon.
Il n'y a pas d'explication.
Et puis il y avait la jarretière.
Nous, en Bretagne, on a fait galettes saucisses.
Ah bon? Saucisse, je t'aime, vous avez chanté ça.
Et voilà.
La chanson de Rennes. Bon, qu'est-ce qui se passe, mais je vois que monsieur...
Je commence à vous faire des signes, parce qu'il va falloir...
Alors,
pas
Denise,
tarder,
un petit mot rapide de Denise, parce qu'on n'a même pas parlé de Fantomas.
Je vous passe Denise.
Denise, c'est moi, Denise. Non, je n'allais pas changer. Bon, voilà, et comment ça va, Denise?
Ah ben super, alors là en pleine forme et tout, je suis prête pour commencer mais pas tout de suite hein, parce que c'est un peu fatigant quand même.
Ah ben évidemment que c'est fatigant, vous avez dansé Denise?
Oh ben j'ai pas arrêté, alors là.
Et vous avez, est-ce que vous avez pris un petit peu de fruits, comment dire, un petit peu de vin, de choses comme ça?
Des choses illicites, non.
Non, il y avait du vin rouge ou vin blanc?
Les deux?
Il y avait de tout.
Il y avait toutes les couleurs.
On est en Bretagne.
On est en Bretagne. Bon, vous avez bu plus que de raison, peut-être, ou
non.
Modéré?
Parce que j'étais consciente tout le temps. Donc,
c'est quand même mieux.
Ça veut tout dire.
Bon,
non.
Mais là, vous êtes dehors, on entend des petits oiseaux, j'ai l'impression.
Oui, on on est dehors parce qu'on capte mieux dehors. On a...
Ça passe mieux.
Ici, bon, c'est des gîtes, c'est des vieilles maisons. Voilà, il y a des gros murs et donc on capte pas bien à l'intérieur. Ah bah donc oui. On est dehors. Et pour l'instant, on a un petit rayon de soleil. voilà. Et il fait super beau.
Bon, vous vivez dans des voilà, troubles de
Ouais, ouais. Non, pas tout à fait.
J'adore la Bretagne, je taquine. Allez, il est 12h47, on est très en retard.
Merci, Denise.
Merci, Denise.
Aurélie voulait vous dire deux mots.
Oui, Aurélie, passez-moi Aurélie. Alors.
Voilà, bisous.
Allez, bisous. Salut, Denise. Bisous.
Allô, oui, c'est Aurélie. Alors. Oui, juste un petit mot, excusez-moi.
Je voudrais
juste remercier parce qu'on a passé un super week-end. C'était, il n'y a rien à dire, c'était génial. Et je voudrais juste remercier le traiteur, l'exotique d'Étape sur Mer parce que ça a été très, très bon, tout le service.
Oui, mais il y a eu quand même des gens qui ont été malades.
Mais n'importe quoi.
Non.
Il y a des gens qui ont terminé à l'hôpital, on m'a dit.
Super, on a tous bien rigolé. Et c'était vraiment génial. Donc, je remercie tout le monde, toute la famille.
Génial.
Vraiment, c'était super. On gardera un souvenir inoubliable. Donc, merci.
Europe 1, le grand débrief de Pascal Prouille.
Avec Laurent Tessier. Ah. Une nouvelle semaine qui démarre, une nouvelle semaine avec nous sur Europe 1. Musique dynamique pour ceux qui étaient en boîte de nuit ce week-end comme Monsieur Boubou, quoi, faire la fête dans les maisons, les appartements comme GG. Musique qui fait danser notre ami DJ Fab.
C'est notre gourou.
Ouais. Oui, j'incarne la pureté même.
La pureté même, DJ Fab. Notre pauvre DJ qui se sent seul en ce moment. Musique triste, s'il vous plaît, en régie. Ah oui, DJ Fab cherche des copains pour partager sa passion des blagues anciennes. Tout le monde est son ami en ce moment, comme notre ami Monsieur Coursipique à Europe 1, Thierry Léger.
Moi, j'aimerais bien qu'on l'appelle... Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de chevaux en Normandie.
Absolument.
Ah, mais vous savez tout, Fabrice Lafitte.
C'est un ami, Monsieur Léger.
C'est pas vrai?
Oui.
Eh ben, écoutez, vous en avez un. C'est bien. C'est pas un ami, c'est votre ami. Vous.
Un qui ne va pas être bien dans quelques temps, c'est Florian Carassou-Maillan.
Où les femmes...
Ah. Musique d'entrée de Florian dans les locaux européens. Oui, chaque début d'émission, tradition oblige, Pascal, vous nous présentez Géraldine, DJ Fab, le reste.
Je salue donc Olivier Guénèque et cher Olivier, je vous avais pas dit bonjour tout à l'heure parce que j'étais un peu dans
vos pensées. Oui, bonjour à tous.
Et puis notre ami, évidemment, Laurent Tessier, qui est là à la rédaction, chef que nous saluons de cette émission.
Mais il manque quelqu'un dans l'équipe, le séducteur de la bande, le Tom Cruise d'Europe 1.
Et Florian, il existe aussi, il est encore là, il est avec nous.
Mais j'ai pas terminé.
Si, vous avez terminé.
Vous voulez écarter des salutations, Florian Carassou-Maillan.
Vous êtes un écro.
Que j'allais saluer.
Allez-y.
Bon, c'était peut-être un simple oubli. Récoutons au hasard. Vendredi.
Je salue Géraldine. Je salue également Monsieur DJ Fab. Je salue évidemment l'ami Laurent Tessier. Et puis notre ami Olivier Guénèque qui prépare son week-end.
Pas de Florian aussi vendredi, qui est déjà parti verser quelques larmes de tristesse. Un qui est heureux, c'est notre champion du monde en ce moment, c'est Monsieur Boubouk.
J'ai eu deux petites aventures. C'est voilà.
En un week-end.
J'ai pécho à deux reprises. Voilà.
Oh, Monsieur Boubouk a pécho à deux reprises en Irlande. Et nous avons réussi, c'est vrai, à obtenir les prénoms.
On aura Claire tout à l'heure au téléphone en direct.
Non, on
il est 12h13. Allez, Léa. Deux, trois choses à vous dire.
Non.
Avec Léa.
Comment?
Avec Léa. Avec Léa aussi.
Non, avec mais Léa. Ah, ça, non, ça par contre c'est non. Ça.
Une sacrée surprise.
Hein. C'était pas ensemble, rassurez-moi.
Non. Mais c'était à 20 minutes d'intervalle.
Oh, à 20 minutes d'intervalle, petit con.
Mon Dieu.
Oh, mais on veut en savoir plus. Qui sont Claire et Léa? Et bizarrement, l'un des membres de l'équipe est volontaire pour se renseigner.
On est sur le coup, Pascal, on les cherche. On
Non, mais arrêtez-vous. Merci Florian, cachez-vous.
11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1.
Bonne nuit sur Europe 1. On se retrouve à 11h pour débattre ensemble de l'actualité.
Ce mardi, Pascal Pro recevra Philippe Val, que vous retrouvez tous les lundis dans Europe 1 Matin, après les infos de 8h30. Eh bien, sachez qu'il sort un livre intitulé « Rire », qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. On va parler donc du rire. Voilà, si vous souhaitez lui poser une question ou interagir avec lui, apporter un commentaire, tout simplement, vous pouvez nous contacter au 01 80 20 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Vous laisserez vos coordonnées et on vous rappellera 01 80 20 39 21. La nuit se poursuit dans un instant avec la Libre Antenne, votre espace de liberté où tous les sujets sont abordés, le rire comme vos peines. Et on va retrouver Valérie Darmon en nouvelle diffusion, mais auparavant la musique bien sûr avec Alain Chamfort. Son dernier titre en date s'appelle La Grâce. Voilà, il a chanté d'ailleurs cette chanson le 22 mars dernier en direct et exclusivement pour les auditeurs d'Europe 1 dans l'émission Culture Média. À revoir évidemment sur le site et l'application Europe 1.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je, sans l'avoir cherché, parlé devant